Bonjour à chacun. Pour parler de Jésus, du Christ, du Fils de Dieu, la Bible et le Nouveau Testament en particulier utilisent toutes sortes de métaphores, toutes sortes d'images. Une métaphore, c'est une figure de style qui permet de comparer des choses, des personnes, sans utiliser d'éléments de comparaison. Donc on pourrait dire que la métaphore, c'est une comparaison par représentation. Ce qui veut dire que le mot « comme », par exemple, n'est pas utilisé. Nous utilisons la métaphore en permanence. Ainsi, nous sommes sur la Lune quand nous sommes distraits. Ou bien nous disons qu'il fait un froid de canard quand le froid est intense. Ainsi, une personne qui change souvent d'avis est une girouette. Et celle qui est généreuse a le cœur sur la main. L'Écriture donc utilise la métaphore pour dire qui est Jésus. Et nous lisons que Jésus est la lumière du monde, qu'il est la source d'eau vive, qu'il est le pain du ciel, la porte des brebis, le bon berger, la pierre rejetée qui est devenue celle de l'angle, l'agneau de Dieu, l'étoile du matin, le lion de Juda, l'alpha et l'oméga, et nous pourrions rallonger cette liste encore beaucoup. Le problème avec ces métaphores, si problème il y a, quand nous les connaissons, c'est qu'on peut très vite avoir le sentiment d'en avoir fait le tour, de les connaître, d'avoir tout compris à leur sujet. Et quand cela est le cas, alors ces métaphores deviennent comme une musique agréable qu'on entend, qui nous plaît bien, mais qui ne nous parle plus vraiment. Alors ce matin, j'aimerais, vous l'avez compris, parler d'une métaphore utilisée dans le Nouveau Testament, dans la Bible, au sujet de Jésus, peut-être la plus connue des métaphores, celle du bon berger. Si elle n'est pas la plus connue, c'est certainement une des plus riches, peut-être la plus riche, de toutes les métaphores qui parlent donc du Seigneur. Elle est variée et tout ce qu'elle dit, elle le dit avec une grande profondeur. C'est Jésus lui-même. Alors, je cherche la télécommande. Est-ce que... Ouais, si tu veux bien. Oh, on trouvera bien le moyen de te gracier. Voilà, donc c'est Jésus lui-même qui utilise cette image, cette métaphore dans l'évangile de Jean, où il dit à deux reprises « Je suis le bon berger ». Jésus dit « Je suis le bon berger ». Et je vous invite à la lecture, ou en tout cas à suivre la lecture, si vous avez une Bible, vous pouvez suivre, dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, et je vais lire les 18 premiers versets. Jean, chapitre 10, les versets 1 à 18. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre point par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par un autre côté, celui-là est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et les mène dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes celles qui lui appartiennent, il marche devant elles. Et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Jésus leur dit encore, « en vérité, je vous le dis, moi je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Il entrera et sortira et trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. Moi, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas berger et à qui les brebis n'appartiennent pas voit venir le loup, abandonne les brebis et s'enfuit. Et le loup s'en empare et les disperse. C'est qu'il est mercenaire et qu'il ne se met pas en peine des brebis. Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Avant de considérer le texte que nous venons de lire, j'aimerais dans un premier temps faire un petit détour par l'Ancien Testament et puis par le contexte immédiat de notre passage. Pour bien comprendre ce texte de Jean, au chapitre 10, est la métaphore du bon berger. Il faut non seulement considérer le texte dans son contexte, ce qu'on essaye de faire généralement, et ce que nous allons faire dans un instant, mais il faut aussi l'inscrire dans un contexte beaucoup plus large, celui de l'Ancien Testament. Dans tout l'Ancien Testament, et encore à l'époque de Jésus, bergers et brebis faisaient partie du décor quotidien. Un berger et une brebis étaient une image de la vie de tous les jours, une image familière pour Jésus et pour ses contemporains. Ça l'est bien évidemment beaucoup moins pour nous qui vivons en Occident au XXIe siècle. Il est question de bergers dans la Bible dès les premières pages du livre de la Genèse, puisque Abel, le fils d'Adam et Ève, est le premier berger de l'humanité, mais de loin pas le dernier. Lui ont succédé, pour ne citer que les plus connus, Abraham, Isaac, Jacob et ses fils, et des hommes tels que Moïse et David, que Dieu a appelés à diriger son peuple alors qu'ils n'étaient que de simples bergers. Très rapidement, dans le texte biblique, la relation de Dieu avec son peuple, avec les siens, va se traduire par la métaphore du berger avec ses brebis ou avec ses moutons, selon la traduction. Et ainsi, Dieu nous est présenté comme un berger pour les siens, un berger pour son peuple qui est comme un troupeau, comme son troupeau, des brebis dont il prend soin. Il n'est pas surprenant que les premiers à utiliser cette image dans la Bible sont des bergers eux-mêmes. Ainsi, Jacob, à la fin du livre de la Genèse, au chapitre 48, verset 15, quand il arrive à la fin de sa vie, dit « Dieu m'a conduit ». Et littéralement, ce qu'il dit, c'est « Dieu qui fut mon berger ». Il arrive à la fin de sa vie et il dit « Dieu a été mon berger ». Chapitre 49, verset 24, il parle encore de Dieu comme du berger et du rocher d'Israël. Connaissons bien évidemment le psaume 23 de David. David le berger qui parle de Dieu comme de son berger. L'Éternel est mon berger. Ceci dit, ce sont néanmoins les prophètes qui vont vraiment développer cette image du berger dans la Bible de la relation de Dieu à son peuple par cette image du berger et du troupeau. Très rapidement, quelques exemples. Il y a d'abord le prophète Ésaïe qui, en parlant de Dieu, déclare qu'il est un berger qui prend soin de son troupeau et qui prend soin en particulier des plus faibles dans le troupeau. Comme un berger, il paîtra son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein, il conduira les brebis qui allaitent. Il marche au rythme des plus faibles dans le troupeau. Le prophète Jérémie, lui, en comparant Dieu à un berger, met l'accent sur la protection de Dieu. Nation, écoutez la parole de l'Éternel et publiez dans les îles lointaines, publiez-la dans les îles lointaines. Dites, celui qui a dispersé Israël le rassemblera et il le gardera comme le berger garde son troupeau. Je n'avais que l'embarras du choix, j'ai encore mis ce texte, ces quelques versets du prophète Ésaïe, parce que ils complètent vraiment cette image pastorale, cette vision pastorale de Dieu. Ézéchiel 34, « Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, c'est moi-même qui prendrai soin de mes brebis, et j'en ferai la revue, comme un berger fait la revue de son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses. Ainsi je ferai la revue de mes brebis et je les arracherai de tous les lieux où elles ont été disséminées, un jour de nuée et de brouillard. Je les ferai sortir d'entre les peuples, je les rassemblerai des divers pays et je les ramènerai sur leur territoire. Je les ferai paître sur les montagnes d'Israël, le long des ruisseaux et dans tous les lieux habitables du pays. Je les ferai paître dans un bon pâturage. Et leur parc sera sur les montagnes du haut pays d'Israël. Là, elles reposeront dans un parc agréable. Et elles pourront paître dans de gras pâturages sur les montagnes d'Israël. C'est moi qui ferai paître mes brebis. C'est moi qui les ferai reposer. Oracle du Seigneur, l'Éternel. Je chercherai celle qui était perdue. Je ramènerai celle qui était égarée. Je panserai celle qui est blessée. Et je fortifierai celle qui est malade. Mais je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses. Je les ferai paître avec justice. Nous trouvons donc dans l'Ancien Testament cette image du berger de son troupeau qui est appliquée à la relation de Dieu avec son peuple. Ceci dit, dans l'Ancien Testament, ce n'est pas seulement Dieu qui est comparé à un berger. Nous trouvons également l'image du berger qui est appliquée au conducteur du peuple de Dieu, au responsable de son peuple. Et quand Israël est sans dirigeant, alors il est comparé dans la Bible comme un troupeau sans berger. Josué sera désigné comme successeur de Moïse afin que l'assemblée de l'Éternel ne soit pas comme des brebis qui n'ont point de berger. Nombre 27, 17. Malheureusement, ce rôle de berger ne sera pas toujours bien rempli par les responsables du peuple. Et nous trouvons chez les prophètes en particulier des paroles sévères, des réprimandes sévères à l'encontre de ceux qui ont failli. Un exemple dans le livre du prophète Ézéchiel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, « Fils d'homme, prophétise contre les bergers d'Israël ». Prophétise et dis-leur aux bergers. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux bergers d'Israël qui se repaissent eux-mêmes. Les bergers ne devraient-ils pas faire paître les brebis? Vous mangez la graisse, vous êtes vêtus avec la laine, vous avez sacrifié les bêtes grasses, vous ne faites pas paître les brebis? Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, soigné celles qui étaient malades, pansé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient, cherché celles qui étaient perdues, mais vous les avez dominées avec force et avec rigueur. Elles ont été disséminées par manque de bergers. Elles sont devenues la proie de tous les animaux de la campagne. Elles ont été disséminées. Mes brebis errent sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mes brebis sont disséminées à la surface de tout le pays. Nul n'en prend soin, nul ne les cherche. Et c'est dans ce contexte de bergers qui ne remplissent pas leur rôle, leurs fonctions, qui sont de mauvais bergers, c'est dans ce contexte d'un peuple livré à lui-même que Dieu va faire une promesse, la promesse d'un autre berger, d'un berger qui sera le Messie et qui sera véritablement le berger de son peuple. C'est à la suite de ce texte, quelques versets plus loin, Ézéchiel 34, versets 22 et 23, « Je porterai secours à mes brebis afin qu'elles ne soient plus au pillage, et je jugerai entre brebis et brebis, j'établirai sur elles un seul pasteur qui les fera paître, mon serviteur David. Il les fera paître, il sera leur pasteur. » Ce Messie berger qui est promis, c'est bien évidemment Jésus, descendant de la lignée davidique, qui porte ici le nom de David comme un titre dynastique. Jésus est le berger, le pasteur donné par Dieu à son peuple. Il est le berger qui ne faillira pas. Il est le bon berger, par opposition à tous les autres mauvais bergers. Pour bien comprendre l'enseignement de Jean 10, il faut donc que nous ayons à l'esprit ce contexte très large de l'Ancien Testament. Mais il faut aussi que nous le placions dans son contexte immédiat. C'est ce que nous faisons avec le point suivant. Au chapitre 9, donc le chapitre qui précède, dans l'évangile de Jean, nous trouvons l'histoire de la guérison d'un aveugle né. Guérison que les pharisiens refusent d'accepter. Guérison à laquelle les pharisiens ne croient pas. Guérison qu'ils refusent d'attribuer à Jésus. Et les pharisiens vont finir par injurier cet homme guéri et le chasser, lui qui avait été aveugle et que Jésus vient de guérir. Je commence la lecture au verset 24. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent « Donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme, en parlant de Jésus, est pécheur. » Il répondit « S'il est pécheur, je ne le sais pas. Je sais une chose. J'étais aveugle, maintenant je vois. » Ils lui dirent « Qu'a-t-il fait? Que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux ?» Il leur répondit « Je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. » Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Ils l'insultèrent et dirent, c'est toi qui es son disciple. Nous, nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Cet homme leur répondit, voilà qui est étonnant. C'est que vous ne sachiez pas d'où il est et il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un honore Dieu et fait sa volonté, celui-là, il l'exauce. Jamais encore on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils lui répondirent, « Tu es né tout entier dans le péché, et c'est toi qui nous enseignes. » Et ils le jetèrent dehors. Les pharisiens et les scribes étaient les chefs, les dirigeants spirituels du peuple d'Israël à cette époque. Ils étaient les bergers d'Israël, mais ils étaient de mauvais bergers. Ils ne s'occupaient pas du troupeau, en tout cas ils ne s'en occupaient pas bien. Ils n'avaient pas le souci du bien-être des brebis. Ils auraient dû se réjouir du miracle qui venait d'avoir lieu, la guérison de cet aveugle-né, une de leurs brebis, se réjouir de cette délivrance merveilleuse que Dieu venait de lui accorder, mais non, il n'en est rien. Au contraire, ils s'indignent, Ils sont incrédules, ils l'injurient et ils chassent avec mépris cette brebis. Ce sont vraiment de mauvais bergers. Et c'est cet incident qui n'est pas sans rappeler ce que les prophètes réprimandaient, nous l'avons lu dans Ézéchiel, qui va servir de tremplin à l'enseignement de Jésus sur le bon berger. Notons bien que la guérison de l'aveugle-né et l'enseignement du bon berger sont deux événements qui ont lieu successivement. Quand Jésus a terminé son enseignement sur le bon berger, la foule va réagir. Et comment est-ce qu'elle réagit ? Nous lisons au verset 21, « Ces paroles, les paroles que Jésus vient de prononcer sur le bon berger, ne sont pas celles d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles ?» À l'évidence, ceux qui viennent d'entendre l'enseignement sur le bon berger ont encore à l'esprit cette guérison de l'aveugle-né. Cette proximité nous permet de voir dans l'enseignement de Jésus sur le bon berger non seulement l'affirmation qu'il est le berger que Dieu a promis dans l'Ancien Testament, le pasteur qui va enfin vraiment prendre soin de son troupeau, mais c'est aussi la dénonciation des mauvais bergers de l'époque. En affirmant qu'il est le bon berger, Jésus affirme que les pharisiens qui viennent de chasser l'homme qu'il vient de guérir, qui sont les bergers spirituels, sont de mauvais bergers. Il est le bon berger par opposition aux mauvais bergers d'Israël. Cette proclamation, donc, c'est la proclamation de l'accomplissement de cette promesse de l'Ancien Testament, mais aussi la dénonciation de la méchanceté, de l'incrédulité, du manque de compassion des pharisiens. Et Jésus a des paroles très dures dans le chapitre 10 que nous avons lu et qui leur sont adressées. C'est en tout cas ma lecture. « Ceux qui agissent de la sorte avec le troupeau, dit Jésus, ne sont que des voleurs, ne sont que des brigands, verset 1, verset 8, verset 10. Ce sont des mercenaires, des gens qui font les choses pour un profit, qui ne se mettent pas en peine des brebis, verset 12, verset 13. Et si le loup vient, dit Jésus, ils abandonnent les brebis et ils s'enfuient. Ils ne sont finalement pour ces brebis que des étrangers, verset 5. Voilà, nous avons maintenant tous les éléments contextuels pour comprendre au mieux, je l'espère, cette affirmation de Jésus, « Je suis le bon berger ». Et ça nous amène à notre quatrième et dernier point. Jésus est le bon berger. Qu'est-ce que cela veut dire? Quel est le sens de cette métaphore? Quelle en est la richesse? Finalement, qu'est-ce qui différencie vraiment Jésus, le bon berger, des mauvais bergers d'Israël? C'est ce que je vous propose de considérer maintenant. Il y a trois grandes caractéristiques qui regroupent l'essentiel de ce qu'on peut dire, on ne sera pas exhaustif bien sûr, mais trois grandes caractéristiques qui se dégagent de notre texte. Et je commence avec la première, le bon berger appelle ses brebis. C'est vraiment quelque chose qui le caractérise. Verset 3, le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et les mène dehors. Le bon berger appelle ses brebis. Qu'est-ce qu'il faut comprendre ici? Il faut ici faire la distinction entre deux sortes d'appels. Premièrement, il y a l'appel à joindre le troupeau. Si on simplifie, c'est l'appel du salut, c'est l'appel à suivre le Christ, c'est l'appel à suivre le bon berger, c'est l'appel à entrer dans la bergerie. Notons à ce sujet que Jésus souligne qu'il n'y a qu'un seul chemin possible pour cela. Il n'y a qu'une entrée dans la bergerie, qu'une seule porte, et cette porte, c'est lui. Pour faire véritablement partie du troupeau, je dois passer par Jésus et par Jésus seul. Versets 7 et verset 9, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, moi, je suis la porte des brebis, dit Jésus. Verset 9, moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. C'est la condition. Le troupeau ou la bergerie, ici, c'est bien évidemment une image du peuple de Dieu, on pourrait dire de l'Église avec un grand E, qui est l'ensemble des rachetés, l'ensemble de ceux qui ont mis leur foi en Jésus et en son œuvre de salut. L'Église véritable, le troupeau véritable du bon berger, n'est pas la somme de ceux qui sont présents dans le bâtiment de l'Église. C'est la somme de ceux qui sont passés par la porte, qui est Jésus. L'Église véritable est constituée de ceux qui sont passés par la porte. Pas par la porte d'entrée là-bas, mais par Jésus. Le critère fondamental pour déterminer ce qui est une véritable brebis, c'est pas d'être là tous les dimanches, hein, c'est pas l'assiduité, c'est pas ce que je donne dans l'offrande, mais c'est d'être passé par Jésus. Ça, c'est le premier appel que le berger adresse à ses brebis. Et la question simple qui découle ici de tout ce que nous venons de dire est de savoir si nous sommes ou pas passés par la porte pour entrer dans la bergerie. Est-ce que je suis passé par Jésus? Est-ce que je suis un disciple de Jésus? Est-ce que je lui ai confié ma vie? Le deuxième appel que le bon berger adresse à ses brebis, c'est l'appel au quotidien à le suivre. Et cet appel, je crois, c'est ce qu'on lit vraiment dans le verset 3. Les brebis qui sont appelées sont déjà les brebis du Seigneur, les brebis du bon berger, elles lui appartiennent, précise le texte. En Palestine à l'époque, et apparemment ça existe encore aujourd'hui, il n'était pas rare, et il n'est donc pas rare aujourd'hui, de trouver plusieurs troupeaux réunis dans le même enclos, ça existe peut-être même dans les Cévennes. Dans la même bergerie, plusieurs troupeaux pour passer la nuit. Et le matin, chaque berger arrive et appelle ses brebis. Alors, il n'a pas besoin de rentrer dans l'enclos, dans la bergerie, pour aller les attraper, les amener dehors et essayer de les rassembler. Non, il se met à l'écart et puis il a sa manière de les appeler avec sa voix. Et cela suffit, les brebis connaissent la voix de leur berger et elles vont se rassembler. Elles ne vont pas se mettre avec le berger de la vallée à côté, hein, parce qu'elles connaissent la voix de leur berger. Et elles ne suivront pas un étranger. Et c'est très certainement cette pratique de la vie de tous les jours, de l'époque, qui est là, derrière, qui sert de support à ce que Jésus dit dans notre texte. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix, il appelle par leur nom les brebis, je ne vais pas essayer, qui lui appartiennent et les mène dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes celles qui lui appartiennent, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Chers amis, il y avait la question de l'appartenance au troupeau. Est-ce que je suis passé par la porte? Il y a aussi la question que nous devons nous poser concernant la voix du bon berger. Si je fais partie du troupeau, du bon berger, est-ce que j'ai appris à bien connaître sa voix? Est-ce que je suis en mesure de la différencier de toutes les autres voix que je peux entendre? Nous vivons dans un monde, je ne vous apprends rien, où il y a toutes sortes de sollicitations en permanence, toutes sortes de voix qui n'arrêtent pas de nous solliciter et d'une certaine manière de nous inviter à les suivre, d'une manière ou d'une autre. Il y a tellement de gens qui se posent en modèle. Je fréquente peu les réseaux sociaux, mais je vois quand même comment ça fonctionne. Il est essentiel que nous connaissions bien la voix du berger, de notre berger, si nous voulons le suivre lui et ne le suivre que lui seul. Il est essentiel que nous sachions différencier cette voix de toutes les autres qui nous invite à toutes sortes de choses. Jour après jour, le bon berger appelle ses brebis à le suivre. Est-ce que je connais la voix du bon berger ? Vous le savez comme moi, c'est dans la Bible que nous trouvons, que se révèle à nous la voix du bon berger. Et plus nous sommes familiers des Écritures, et plus il nous est facile de discerner la voix du bon berger pour lui obéir. Et si nous aimons mettre l'accent sur la centralité de la Bible dans notre vie de piété, dans notre vie d'Église, c'est pas pour faire de nous des érudits de la Bible, mais c'est pour faire de nous des connaisseurs de la voix du bon berger. C'est véritablement ça. Tout l'enjeu de l'étude de la parole, de la méditation de cette parole, c'est de faire de nous des connaisseurs de la voix du bon berger, pour que nous puissions le suivre et pour que nous puissions lui obéir. Notre texte nous dit donc que le bon berger appelle ses brebis, mais ce n'est pas tout. Il précise qu'il les appelle par leur nom. Une précision tellement bienfaisante qui nous dit que Jésus connaît les siens. Il connaît chacune de ses brebis personnellement. Pour Dieu, nous ne sommes pas juste un numéro. Peut-être dans la société, ça peut être le cas par moments. Peut-être qu'on a grandi en étant mal considéré et avec ce sentiment qu'on n'est qu'un numéro, qu'on ne compte pas beaucoup. C'est absolument pas le cas ici. Pour Dieu, nous avons chacun de la valeur. Et Dieu désire une relation personnelle avec chacun de nous. Le bon berger désire une relation personnelle avec chacune de ses brebis. Quand j'entre dans le troupeau, le bon berger devient mon berger, pas juste le berger, mon berger. Et ça nous fait tout de suite penser à tous ces pronoms personnels. Dans au psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai. Il me fait reposer, il me conduit, il restaure mon âme, etc. Il faut avancer. La deuxième caractéristique du bon berger que je voudrais souligner, c'est qu'il conduit ses brebis, ce qui implique qu'il prend soin d'elles. Je crois que c'est ce qu'il faut entendre. Quand nous lisons « il conduit », nous devons entendre « il prend soin d'elles ». Parce que c'est pour cela qu'il les conduit, pour prendre soin d'elles. Pas juste pour aller faire une promenade, hein, mais il les conduit pour les emmener là où elles auront de verts pâturages. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et les mène dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes celles qui lui appartiennent, il marche devant elles. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Lorsqu'il a fait sortir les brebis de l'enclos de la bergerie, le bon berger marche devant ses brebis et elles le suivent. Et elles le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. C'est donc par la voix, nous l'avons dit, que le bon berger va conduire, par sa parole, par la voix, mais aussi par son exemple, mais aussi en marchant, j'ai envie de dire littéralement devant son troupeau. Le bon berger marche et le conduit vers de verts pâturages. Il prend soin de son troupeau ainsi parce qu'il connaît le chemin. Il connaît les facilités du chemin, il connaît les pièges du chemin. Et en marchant devant le troupeau, il choisit le chemin adapté. Il va indiquer les dangers, il va se mettre à côté du trou pour que les brebis passent à côté, etc. Il va ouvrir le chemin, il va éviter les pièges et les dangers du chemin. Voilà ce que le bon berger fait pour ses brebis. Alors tout ça, c'est un peu abstrait peut-être pour nous, mais une chose est sûre, c'est que le bon berger n'appelle pas ses brebis pour les laisser ensuite se débrouiller toutes seules. Il les appelle et il les conduit personnellement. Et je pense ici que cette implication du bon berger, elle nous renvoie entre autres aussi à cette réalité du bon berger de Jésus qui s'est fait homme. Il s'est fait homme pas seulement pour nous sauver, il s'est fait homme aussi pour nous laisser un exemple. Il a marché sur les chemins de notre humanité, notre bon berger. Il connaît les dangers du chemin. Il connaît chacun de ces dangers. L'Épître aux Hébreux nous dit que Jésus peut compatir à nos faiblesses car il a été tenté comme nous à tous égards sans commettre de péché. Et c'est ainsi qu'il peut parfaitement nous guider. Et il sait ce que c'est qu'être un être humain. Il sait ce que c'est de l'intérieur. Nos combats, il les connaît, parce qu'il a été dans notre humanité. Il sait ce que c'est que la souffrance. Il sait ce que c'est que la faiblesse. Il connaît les fragilités de la vie humaine. Il sait même ce que c'est que la tentation. Ce n'est pas juste le bon berger qui est là devant nous, c'est un bon berger qui nous comprend parfaitement et qui connaît parfaitement tous nos besoins. Et c'est pour ça qu'il peut parfaitement nous guider, par sa voix, par sa parole, par son exemple. Au verset 9, nous lisons qu'il nous conduit vers de bons pâturages. Il marche devant elle et avec elle pour leur bien, pour les amener là où ce sera bien pour elles. Ces verts pâturages qui les nourrissent, qui les restaurent, des eaux paisibles, tout ça nous renvoie encore une fois au psaume 23. Mais pourquoi est-ce que le berger agit ainsi? Il agit ainsi tout simplement parce qu'il aime ses brebis, parce qu'il veut leur bien, parce qu'il veut qu'elles aient la vie et qu'elles aient la vie en abondance. C'est ça que le bon berger recherche. C'est notre bien dans sa plénitude, la vie en abondance. Alors, il ne faut pas se tromper ici parce qu'on peut vite projeter sur cette expression des choses qui ne sont pas là. La vie en abondance, ce n'est pas une vie où tout est rose et où il n'y a jamais de problème, où tout est merveilleux, où je gagne au loto tous les jours. Et vous voyez l'espèce de vie fantastique dont peut-être vous rêvez. La vie en abondance, c'est la vie telle qu'elle est. C'est votre vie aujourd'hui, mais avec la présence, avec la force et avec le soutien du bon berger, quelles que soient les circonstances. C'est ça la vie en abondance. C'est la présence du bon berger dans votre vie. Alors, bien sûr, pour l'instant, tout est encore marqué par le péché. Et cette abondance, nous ne l'avons pas encore dans sa plénitude. Mais ça veut dire que je peux vivre cette vie en abondance quand c'est facile et quand c'est difficile aussi, parce que le bon berger est là. La vie en abondance, c'est la présence du bon berger dans ma vie, maintenant et pour l'éternité. Être conduit par le bon berger, c'est pour notre bien et c'est aussi pour notre protection. Un mot sur la protection, parce que c'est une évidence que le bon berger, le berger défend son troupeau. Prendre soin du troupeau, c'est le défendre contre les dangers. Et ce qu'il faut comprendre ici, avant tout, ce sont les dangers spirituels. La protection du bon berger, c'est l'assurance pour les brebis d'arriver à bon port, de ne pas être abandonnés en chemin, de ne pas rester coincés dans les ronces en chemin. C'est l'assurance du salut, tout simplement. C'est de ça dont nous parlons, c'est la vie éternelle. Et Jésus va le dire un petit peu plus loin dans ce chapitre 10, on ne l'a pas lu, ça vient au verset 27. « Mes brebis entendent ma voix, moi je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne les arrachera de ma main. » Ça, c'est l'assurance. Ça, c'est le bien éternel. C'est cette protection spirituelle. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les arracher de la main de mon Père. Je ne sais pas s'il faut une meilleure garantie de cela, je ne crois pas que ce soit possible. Moi et le Père, nous sommes un. Oui, le bon berger prend soin de ses brebis, toutes celles que le Père lui a confiées, en les conduisant jour après jour. Et il peut arriver qu'une brebis s'égare. Le bon berger la cherche. Il peut arriver qu'une brebis se blesse. Le bon berger la soigne. Il peut arriver qu'une brebis traîne la patte. Le bon berger va calquer son rythme sur elle, va l'encourager, la soutenir, peut-être même la porter. Ça nous renvoie au texte d'Ésaïe 40. Il peut arriver toutes sortes de choses aux brebis. Une chose est sûre, c'est que le bon berger les conduira à bon port, jusque dans la maison du Père, et elles ne périront jamais, et nul ne pourra en arracher une seule de sa main. Chers amis, quel réconfort d'avoir un tel bon berger. Et comme le dit le chant qu'on va chanter dans quelques instants, « Il me conduit, quel grand bonheur !» Pensons à ce que nous chantons. « Il me conduit, quel grand bonheur !» Un bonheur incomparable. Très rapidement, cette dernière caractéristique que je ne développe pas, parce que là, il y aurait de quoi faire un message en soi, bien sûr. C'est une extension de la deuxième caractéristique. Le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis, c'est la manière par excellence de prendre soin d'elles, de les conduire. Verset 11, « Moi, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Verset 15, « Comme le Père me connaît, comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. » Pour qu'elles aient la vie. Mais nous l'avons vu, la vie en abondance. La vie en abondance. Il y aurait vraiment beaucoup de choses à dire ici, j'en souligne qu'une. C'est la dernière diapo. C'est que le bon berger donne sa vie volontairement et sans contrainte. Voilà, j'ai choisi de mettre un petit coup de projecteur là-dessus. Versets 17 et 18. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Je voulais simplement souligner ici, rappeler que la croix dont nous parlons régulièrement, n'est pas un accident comme certains l'affirment. C'est pas une erreur de parcours. C'est pas Jésus qui a joué de malchance. C'est pas que les Romains ou Judas ou les pharisiens étaient plus malins que Jésus, c'est pas ça la croix. La croix, c'est un choix, c'est le plan de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Le bon berger est venu pour donner sa vie. C'était comme ça que Dieu a voulu les choses. La croix fait partie du plan de Dieu, c'est la raison de l'incarnation. Et nous connaissons tous ces versets qui nous disent que le Fils de l'homme est venu non pour chercher et sauver ce qui était perdu, pour donner sa vie en rançon, etc. Quel contraste avec les voleurs et les brigands du verset 1, qui ne sont là que pour tuer, dit le texte. Quel contraste avec les mercenaires du verset 12 et 13, qui ne pensent qu'à leur intérêt. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il fait ce qu'elle n'aurait jamais pu faire, nous le savons. Et nous savons que c'est là la marque du plus grand amour. Jésus le dira lui-même, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il y aurait tellement d'autres choses, je l'ai déjà dit, je radote, mais je pense que le tableau est quand même suffisamment complet, en tout cas avec assez d'éléments ce matin, pour que nous puissions réfléchir à tout ça, peut-être nous positionner, pour que nous puissions peut-être choisir de suivre ce bon berger ce matin. Peut-être que ça a été un débat, une question en vous, et pourquoi pas ce matin choisir d'entendre, de répondre à son appel. Peut-être un tableau suffisamment complet pour que nous puissions décider d'écouter à nouveau la voix du bon berger, peut-être que ces derniers temps, vous avez pris quelques chemins de traverse, vous avez été arrêté sur le bord du chemin, je ne sais pas, je ne connais pas votre vie. Peut-être que vous avez fermé vos oreilles à la voix du bon berger pour une raison ou pour une autre. Pardon. Pour une raison ou pour une autre. Pourquoi ne pas choisir ce matin d'écouter à nouveau la voix du bon berger? Peut-être aussi pour que nous puissions tout à nouveau tout simplement dire notre reconnaissance à Dieu pour son immense amour, parce que c'est vraiment cela dont nous parlons. Lui qui a donné la vie de son Fils, ce qu'il avait de plus cher. Alors que le Seigneur nous donne à chacun de bien considérer toutes ces choses. Amen.